Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous retrouver sur Radio Kapi. Paralysie des activités socio-économiques à Magui Centre et à Ngoté à Nitouri. Les forces vives locales poursuivent leur mouvement de protestation contre les tracasseries routières et la persistance de l'insécurité dans la zone. La RDC est déterminée à défendre ses droits face au Rwanda devant la Cour internationale de justice. Lundi, les deux parties ont été briefées sur les mesures procédurales avant les dépôts de mémoire. Notre invité est Alain Kateta, chef de bureau du PNID au niveau du Kananga. Il reviendra sur la formation organisée en faveur des 60 officiers de la police judiciaire du Kasaï central destinée à les aider à mieux conduire leurs enquêtes. Nous l'avons dit au sommaire, en Ituri, les activités économiques sont paralysées depuis mardi dans plusieurs agglomérations du territoire des Mahagi, notamment à Mahagi Centre et à Ngoté, à environ 160 km au nord de Bounia. Je rappelle de la société civile, une journée ville morte est observée pour dénoncer les tracasseries attribuées à certains policiers de la circulation routière ainsi que la dégradation de la situation sécuritaire. Ces mouvements interviennent après des manifestations des jeunes dispersés par la police à coups de tirs des sommations qui ont blessé un leader de la jeunesse dans la région.
La tension persiste dans les territoires des Mahagi. Des jeunes dénoncent les tracasseries qu'ils attribuent à certains agents de la police de circulation routière. Lundi, des manifestations ont éclaté à Ngoté et à Mahagi Centre. Les protestataires ont démantelé plusieurs barrières de contrôle avant d'être dispersés par la police à coups de tirs de sommation. Selon des sources locales, le président des jeunes de Ngoté a été blessé. En réaction, la société civile a décrété une opération ville morte. Depuis mardi, les marchés, boutiques et plusieurs autres activités sont paralysées. Elle exige la suppression des barrières jugées illégales et le renforcement de la sécurité. Le mouvement s'est étendu ce mercredi à d'autres centres commerciaux, notamment Ndrélé. Face à cette situation, l'administrateur du territoire a convoqué une réunion du comité local de sécurité afin de rechercher des solutions et d'apaiser les tensions. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Et au niveau du Congo central, les agents de la police des circulations routières PCR ont relancé lundi les opérations de contrôle des permis de conduire pour les conducteurs des motos. Cependant, de nombreux motards, surtout à Matadi, circulent encore sans ces documents, pourtant indispensables pour garantir la sécurité routière. De leur côté, certains usagers dénoncent les abus et les irrégularités dans la manière dont ces contrôles sont menés. Le point avec Élise Kavira.
Dès le matin, au carrefour et sur les grandes artères de la ville, les agents de la circulation contrôlent les documents des motards. Si certains présentent facilement leur permis, d'autres qui ne sont pas en règle cherchent à éviter le contrôle et engagent des discussions avec les policiers.
Les PCR ont le droit de contrôler les permis, mais ça doit se faire dans le respect. Que le motard soit en ordre ou pas, il faut l'interpeller sans le brutaliser.
Mais tous les motards ne partagent pas ce point de vue. Claudie Moukeba, lui, estime que les tensions qui éclatent régulièrement entre les conducteurs des motos et les agents de la PCR, c'est souvent le comportement de certains motards qui en est à l'origine.
Si le roulage te demande le permis de conduire, montre-les lui directement et il te laissera partir.
Face aux plaintes et aux différentes réactions des motards, le sous-commissaire Mbuika Bongo regrette que certains conducteurs ne mesurent toujours pas l'importance de détenir un permis de conduire.
Jusqu'à présent,
plusieurs motards n'ont pas leur permis de conduire. La loi relative au code de la route nous autorise à l'acheminer au bureau et il paiera une amende telle que la loi les recommande.
La police des circulations routières rappelle que le permis de conduire est une garantie de compétences et de responsabilités. Conduire sans permis, c'est mettre sa vie et celle des autres usagers en danger. Matadi, Elise Kavira, Radio Kapi.
Parlons de cette affaire interétatique. À La Haye, devant la Cour internationale de justice, la RDC a pris part à une séance procédurale dans les dossiers qui l'opposent au Rwanda. Conduite par le ministre d'État et ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, la délégation congolaise a échangé avec la Cour sur l'organisation de la procédure sans aborder les fonds du litige. Jean Gandou.
La République démocratique du Congo et le Rwanda ont franchi une nouvelle étape dans la procédure judiciaire qui les oppose devant la Cour internationale de justice à la Haye aux Pays-Bas. Conduite par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Guillaume Geffa, la délégation congolaise a participé lundi 20 juillet à une réunion procédurale organisée au siège de la juridiction internationale. Selon le ministre Guillaume Geffa, cette séance préliminaire s'est tenue sous les auspices du président de la Cour et en présence des membres du greffe. La RDC était notamment représenté par son agent auprès de la Cour, l'ambassadeur Christian Dongala, ainsi que par le co-agent Maître Yvon Mingachang. La délégation rwandaise, pour sa part, était conduite par le ministre de la Justice du Rwanda. Les échanges n'ont pas porté sur le fond du différend entre les deux pays. Ils ont été exclusivement consacrés aux questions procédurales, notamment au calendrier de dépôt des mémoires et aux modalités pratiques du déroulement de l'instance. À l'issue de cette réunion, la Cour internationale de justice devra rendre une ordonnance fixant les prochaines étapes de la procédure. Kinshasa réaffirme pour sa part sa détermination à défendre ses droits devant la plus haute juridiction des Nations Unies chargée du règlement des différends entre États.
Vous suivez Radio Okapi à Mangina où il est 13h passé des 6 minutes. Massacre, enlèvement, pillage et recrutement forcé, l'hosté civil du Nord Kivu dresse un constat alarmant de la situation sécuritaire dans la province. Dans une déclaration publiée mardi à Mangina, commune rurale du territoire de Beni, elle met en cause les ADF ainsi que l'AFC M23 qu'elle accuse des multiples exactions contre les populations civiles dans les zones sous son contrôle. La société civile appelle la communauté internationale et le gouvernement à agir. Écoutons un extrait de cette déclaration lue par son coordonnateur John Banyene.
Plusieurs entités ont été la cible des attaques ADF dans les villes de Beni et Oicha. Territoire de Beni, notamment à Mangina, Mbau et Aïer, avec comme conséquence les massacres à répétition des populations civiles innocentes. Des incendies de maisons, motos, auxquels s'ajoutent des enlèvements d'autres compatriotes dont on ne sait leur sort. Pendant ce temps, la partie sud de la province, le M23, continue à se renforcer en déployant de militaires et à terminer la formation à Tchanzu. Des militaires RDF avec la logistique conséquente dans la zone qu'ils contrôlent prouva son habituel plan de poursuivre la guerre dans les différents axes malgré tous les engagements pris. Par ailleurs, le même M23 continue à massacrer, torturer, violer, piller des ressources naturelles, des biens des populations, occupation illégale des habitations, échange, imposition des taxes illégales qui asphyxient la population, les recrutements forcés de jeunes.
La société civile du Nord Kivu appelle les partenaires du gouvernement à appliquer les résolutions du Conseil de sécurité, à soutenir un mécanisme judiciaire pour les crimes commis en RDC et à faire respecter les accords de Washington. Elle exhorte également les autorités congolaises à renforcer les capacités des forces de sécurité et à intensifier la lutte contre les groupes armés. Nous allons poser nos valises à Kindu, où plus de 4000 ménages du secteur de Babuyu, en territoire de Kabambari. Nous sommes au Maniema, ont été contraints de fuir leur village à la suite des affrontements impliquant les généraux autoproclamés Mayaya venus du territoire de Nyunzu. Face à cette situation, l'administrateur du territoire de Kabambari, Albert Walubangi Katuta, appelle les autorités compétentes à intervenir rapidement afin de stopper l'avancée de ces groupes armés et de favoriser le retour de la paix dans la région. Albert Walubangi Katuta a été joint par Florence Kizalunga.
Jusqu'au moment où nous parlons, dans le secteur de Babuyu, un certain général autoproclamé, Mayaya, est en train de semer des désolations. Mayaya, il est du territoire de Nyunzu, travaillant en collaboration avec Yakutumba, qui est du territoire de Fizi. Alors, comme ils étaient en train de collaborer avec les Chinois dans la partie sud, et trouvant que non, de ce côté, il n'y a plus de minerais, il va attaquer maintenant le territoire de Kabambari. Vraiment, c'est une situation que nous sommes en train de porter à la connaissance de tout un chacun. Il doit aussi prendre ça comme un cri d'alarme. Puisque juste du côté Babuyu, nous avons enregistré à peu près 4927 ménages en déplacement. Et vous savez, quand la population se déplace comme ça, ça devient maintenant la source de plusieurs maladies. Donc, un problème que j'ai voulu porter à votre connaissance pour que le niveau provincial, y compris le niveau national, essaie un peu de nous venir en aide. Puisque la cause n'est autre qu'en quête d'argent, à la recherche des ressources. Nous demandons l'assistance si vite possible.
Au Kasaï oriental, les femmes souffrant des fistules obstétricales sont invitées à se présenter au centre hospitalier presbytérien de Mbujimayi dans la commune de Dibindi afin de bénéficier des soins gratuits. Une campagne de réparation chirurgicale est lancée depuis ce mercredi et se poursuivra jusqu'à la fin du mois août. Selon le point focal des fistulas cliniques, une structure spécialisée dans la prise en charge de cette pathologie au Kasaï oriental, le financement obtenu permettra d'offrir des soins complets et gratuits à une cinquantaine de femmes concernées. Les docteurs Jean-Pierre Loukoji appellent toutes les patientes vivant avec une fistule obstétricale à s'inscrire rapidement afin de profiter de cette opportunité, et retrouver leur dignité, améliorer leur qualité de vie. Le docteur Jean-Pierre Loukoji a été joint au téléphone par Esther Ndalafina.
Les femmes nous viennent de partout, de Kabinda, de Tchofa, de Kananga, de Chikapa. Et cette année, nous avons déjà fait la première campagne qui a pris fin au mois de mai. Alors, comme il restait encore beaucoup de cas, Fondation Vodacom a pris ça en charge pour réparer au moins 50 cas. Donc, la campagne va terminer à la fin du mois d'août. Alors, raison pour laquelle nous appelons les dames, que les dames viennent. Celles qui sont encore en retard doivent venir pour être réparées. Et si c'est mode campagne, les avantages, c'est que en mode campagne, il y a les kits de réinsertion, il y a aussi les kits nutrition. Donc, les malades sont pris en charge eux-mêmes par rapport à la nourriture. C'est le partenaire qui donne. Et à la fin de la campagne, il y a les kits de réinsertion qu'on donne aux malades réparés. Alors, c'est différent avec le mode routine. Mode campagne, il y a tout. Nous faisons appel à toutes les dames qui restent encore de venir en mode campagne.
Nous poursuivons avec cette édition où les essais cliniques de nouveaux médicaments contre la maladie à virus Ebola se poursuivent dans les centres de traitement. Selon la coordination provinciale de la riposte, les recrutements des participants se poursuivent conformément au protocole de recherche. L'objectif est d'évaluer l'efficacité de ces traitements et de renforcer la prise en charge des patients ainsi que la protection des personnes en contact. Les précisions avec Jean-Pierre Akilimali, coordonnateur provincial de la riposte, au micro de Isaac Remoyope.
Nous avons deux essais cliniques qui sont en cours. L'essai clinique partner qui veut montrer l'efficacité d'une molécule qui peut traiter efficacement la maladie. Mais aussi nous avons l'essai EboPep qui utilise des médicaments qui permettent de protéger les personnes qui ont été en contact avec le malade, donc le contact à haut risque, pour qu'ils ne développent pas la maladie. Et en ce faisant, nous réduisons l'incidence de la maladie parmi les contacts à haut risque. Les deux études respectent la méthodologie rigoureuse scientifique et donc il faut qu'ils attendent et que l'étude se place, continue à recruter les participants tels que c'est prévu et pour qu'on ait des résultats valides et que ces médicaments soient validés et soient utilisés pour même les prochaines épidémies. Il y a la taille de l'échantillon qui a été calculée pour chaque type d'étude et il faut voir le protocole spécifique de chaque étude. Comme vous le savez, quand nous faisons les recherches, chaque étude, on a un protocole et c'est ce protocole qu'on utilise.
Nous poursuivons avec cette session d'information. Nous allons nous rendre directement à Kindu où les blocs aéro situés dans la commune de Kasuku dans la province du Maniema, cette partie est confrontée à plusieurs difficultés. Parmi celles-ci figurent le manque d'accès à l'eau potable, l'insuffisance des structures sanitaires ainsi que l'absence d'écoles publiques. Face à cette situation, les chefs du quartier Bloc Aéro lance un SOS aux autorités et aux partenaires afin qu'une solution durable soit trouvée pour améliorer les conditions de vie des nombreuses familles qui y résident. C'est un reportage de Florence Kizalunga.
Les blocs aérobis comptent plus de 20 000 habitants. Ils éprouvent d'énormes difficultés pour accéder aux services sociaux de base. Dépourvus de l'eau potable, ces habitants sont obligés de parcourir entre 2 et 3 kilomètres afin d'atteindre une source d'eau aménagée, déclare Abedi Moutoupeke Emmanuel, chef des blocs.
Ici chez nous, nous souffrons à cause des manques de l'eau potable. Nos mamans, nos femmes quittent d'ici pour aller à 2 ou 3 kilomètres pour trouver de l'eau potable. À cause de distance, certaines familles utilisent de l'eau de puits pour la consommation. Et ça crée aussi des maladies hydriques que les autorités regardent aussi de ce côté.
Effectuer chaque jour cette distance est un calvaire pour certaines femmes et jeunes filles de ces quartiers. Témoignage de Marie Ororo.
Trouver de l'eau potable ici, c'est un sérieux problème. On parcourt de longues distances et comme c'est trop loin, on se contacte de l'eau de puits.
L'infirmier titulaire d'un centre privé que nous avons contacté confirme l'existence des cas de maladies hydriques. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
En Algérie, les pompiers sont mobilisés pour maîtriser un incendie qui s'est déclaré près d'El Hachima, à 125 km au sud d'Alger. Le feu s'est réparti des encablures d'habitations avant de se propager rapidement à la forêt des Kesna, détruisant une vaste superficie boisée. L'Algérie est confrontée à une vague exceptionnelle de feux de forêt attisés par le forte chaleur qui frappe les pays depuis près de 2 semaines.
L'invité.
Alain Kateta, chef de bureau PNID Kananga, est notre invité du jour. Il revient sur la formation des 60 officiers de la police judiciaire du Kasaï central, dont 10 femmes organisées dans le cadre de la réforme de la police nationale congolaise avec l'appui financier et logistique de son organisation qui est bien sûr le PNID. Alain Kateta s'entretient avec André Katende Ngalamulume.
Maître Alain Kateta, bonjour. Le PNUD a appuyé la formation des 60 officiers des polices judiciaires du Kasaï central. Qu'est-ce qui motive cet appui?
Merci. C'est un appui qui est réalisé pour renforcer les capacités techniques de la police, améliorer les prestations des OPJ. C'est dans ce cadre que cet appui a été apporté pour améliorer la qualité des services de la police et rendre la police beaucoup plus professionnelle, renforcer ses capacités techniques.
Pourquoi avez-vous pensé à la formation de ces OPJ?
C'est parti d'un constat. On a constaté qu'il y a plusieurs officiers de police judiciaire qui ont beaucoup de difficultés dans la rédaction des procès-verbaux, dans les enquêtes qu'ils sont en train de mener, il y a beaucoup de difficultés. Et au-delà de ça, le nombre d'OPJ est très réduit. Il a fallu essayer de répondre à ces besoins-là, exprimés par l'autorité provinciale, le gouverneur, et aussi par les commissaires provinciaux. Ce sont les deux autorités étatiques qui ont introduit cette demande d'appui. Et au niveau national, nous l'avons examiné avec l'école de formation des polices et la commission de réforme de la police. On s'est mis d'accord pour que le PNUD apporte son appui à travers le programme conjoint d'appui à la réforme de la police. La formation a porté sur la rédaction des procès-verbaux, la direction des enquêtes, les violences basées sur les genres, les enquêtes financières et aussi tout ce qui a trait à la criminalité, la procédure pénale, les droits pénaux généraux et les droits pénaux spéciaux. Donc, plusieurs matières comme ça.
Qu'est-ce que vous attendez de ces OPJ formés?
Ce que nous attendons, c'est que cette formation ne soit pas une lettre morte, que cette formation ait un impact. Nous voulons constater dans leur pratique la mise en œuvre de toutes les recommandations d'ordre éthique, déontologique et le respect des délais pour éviter les arrestations arbitraires, les détentions à longue durée et toute autre tracasserie déplorée ou dénoncée par la population. Et nous voulons aussi espérer de ces OPJ qu'ils soient des fidèles ambassadeurs de consolidation aussi de la paix. Nous sommes dans une zone post-conflit. Le policier n'est pas là ou l'OPJ n'est pas là seulement pour sanctionner, mais aussi il y a lieu de jouer la médiation dans certains litiges qui n'ont rien à voir avec ce qui est pénal. Il y a moyen de jouer un rôle, la médiation et contribuer à la cohésion sociale dans la communauté.
60 OPJ, pensez-vous que c'est suffisant pour le Kasaï central?
Ça, ce n'est qu'un pas. Dans la mesure du possible, si les budgets et les moyens sont mobilisés à la fois par le gouvernement et d'autres partenaires techniques et financiers, dont le PNUD, nous n'allons pas hésiter puisque les demandes sont énormes. Les demandes sont énormes, il va falloir mobiliser les ressources et nous sommes disposés à le faire. Ici, on a pu quand même sur 200 personnes, la demande portait sur 200, mais nous avons pu travailler sur 60, 50 hommes et 10 femmes. Ce n'est pas suffisant, mais c'est quelque chose.
Maître Alain Kateta, nous vous disons merci.
Merci.
Et c'est à nous également de vous dire merci, car la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Grand merci à Jean Gandou qui a supervisé cette édition, une coordination de Élisée Chikota, mise à nom de Diedone Nyangasa, dans une présentation de Ronéline Tibonera Idi Amin. Bonne journée.